Donc bonjour à toutes et à tous, et encore une fois bienvenue, en particulier pour les personnes qui nous visitent aujourd'hui. Bonjour à vous aussi qui êtes là en train de nous suivre à l'écran. Rendons grâce à Dieu pour ce culte vécu à la fois en présentiel et à distance. Et soyons-en sûrs, c'est le même Dieu qui nous rassemble cet après-midi. Et j'ai la joie de vous retrouver cet après-midi, mais une plus grande joie m'anime. La série de prédications que nous entamons aujourd'hui et qui s'intitule « Qui est Jésus ?» m'enthousiasme parce qu'elle concerne Jésus-Christ. Celui que nous avons loué. Et cela m'enthousiasme parce que j'en suis sûr, cette série à travers les quatre évangiles va nous rapprocher de Jésus. Nous allons voir qui est Jésus à travers les récits de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et il faut d'emblée préciser qu'après ces quatre messages, nous n'aurons pas fait le tour de la question, loin de là. Nous n'aurons pas répondu totalement à la question « Qui est Jésus ?» Et il faudra y revenir les années suivantes. Et cette série s'inscrit dans le cadre du thème de cette année. Cette année, avec Pasteur Nguyen, nous avons voulu développer ce thème « Cherchons Dieu et nous vivrons ». Nous avons réfléchi à deux séries de prédications pour chaque partie, pour la partie « Cherchons Dieu » et pour la partie « Nous vivrons ». Et pour ce qui nous concerne, c'est cette partie-là que j'aimerais développer avec vous à travers cette série de prédications qui s'intitule « Qui est Jésus ?». Parce que chercher Dieu, c'est se tourner vers Dieu. C'est avoir une relation avec le Dieu qui nous a créés. Et cela est possible uniquement grâce à Jésus-Christ. « Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 14, versets 6 et 7. Alors tout logiquement, c'est à Jésus que nous devons nous intéresser pour chercher Dieu. Car il est l'image parfaite de Dieu, du Dieu que nous ne voyons pas. Alors, qui est Jésus ? En fait, c'est une question tellement importante pour nous. Et pour avoir une réponse juste à cette question, regardons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Comment les évangiles présentent-ils Jésus ? Sur quoi insistent-ils ? Et ma prière à travers cette série de prédications est que nous puissions voir Jésus d'une manière renouvelée, d'une manière rafraîchie. S'il est le Fils de Dieu, s'il est le Messie, s'il est le Roi, s'il est Seigneur, alors cela nous impacte ou devrait impacter chaque jour de notre vie. Je vous invite à prier encore avec moi. Notre Père, nous nous apprêtons à découvrir ou à redécouvrir ton Fils, Jésus, plus en profondeur. Et beaucoup d'entre nous le connaissent déjà, mais nous voulons le connaître encore plus, encore mieux. Oui, que Jésus soit glorifié à travers ces messages et à travers notre vie. Amen. Alors, venons-en à l'étude de Matthieu 16. Nous sommes au cœur du ministère de Jésus. Il est désormais assez connu en Galilée et dans les alentours. Il a enseigné, il a accompli beaucoup de miracles. Il est régulièrement suivi par la foule. Au chapitre 14, nous lisons par exemple qu'il part en bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Mais la foule va le suivre à pied pour le rejoindre. Donc Jésus est régulièrement suivi par la foule. D'un côté, la foule le suit, mais de l'autre, à la même époque, les responsables religieux le rejettent. Ils ne reconnaissent pas en lui celui que la foule acclame. Et au début du chapitre 16, le chapitre en question que nous sommes en train d'étudier, des pharisiens veulent tendre un piège à Jésus en lui demandant d'accomplir un signe miraculeux. Un peu comme la tentation de Satan du diable dans le désert lorsqu'il a tenté Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Voilà ce que les pharisiens ont essayé de faire. Mais Jésus n'accède pas à leur demande provocatrice. Et le texte d'aujourd'hui raconte un moment de répit. Un moment de répit pour Jésus. Loin de la foule. Loin des pharisiens. Un moment privilégié entre Jésus et ses disciples. Un moment où Jésus peut poser des questions à ses disciples pour savoir ce que les gens disent à son sujet. Ce que les disciples pensent, eux, de leur maître. Et c'est durant ce moment, loin de la foule, que Pierre déclare une chose incroyable. Jésus est le Messie. Notre texte aborde clairement le thème de l'identité de Jésus. Et nous pourrions nous arrêter là. Les textes parallèles, c'est-à-dire ceux qui racontent la même scène, ces textes qu'on trouve chez Marc et chez Luc, s'arrêtent à la déclaration de Pierre. Et ensuite, enchaînent avec la recommandation de Jésus de ne pas dévoiler son identité. Mais Matthieu, comme vous le voyez ici, Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, a jugé bon de rapporter à ses lecteurs la réponse de Jésus à Pierre. Une réponse qui concerne son Église. Et pour nous qui vivons la réalité de l'Église, ces mots de Jésus méritent toute notre attention. Et ce que nous apprenons dans notre texte, c'est que Jésus est bien le Messie promis. Et que l'Église, au sens large, est son projet. Jésus est bien le Messie promis et l'Église, au sens large, est son projet. Et de cette manière-là, Jésus fait le pont entre l'Ancien Testament, puisqu'il est le Messie promis, et le Nouveau Testament, puisqu'il parle de l'Église. Et commençons par une première révélation que nous trouvons dans notre texte. Une identité révélée. Vous connaissez peut-être ce genre d'image. Confirmez-moi juste d'un hochement de la tête. Certains, en tout cas. Alors, ici, en réalité, c'est une image qui présente, alors peut-être on voit pas très bien ce qui est écrit en dessous, mais ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de ce que les autres pensent qu'on est en train de faire, notamment ici dans le cas de l'ingénieur. Alors bien sûr, j'ai rien contre les ingénieurs, mais voilà, on a l'impression d'imaginer toutes sortes de choses de ce que les ingénieurs pourraient faire. Et je me suis livré à un exercice similaire concernant l'identité de Jésus. Qu'est-ce que les gens pensent de Jésus? Alors, comme c'est un peu petit peut-être, je vais simplement dire ce qui est écrit. Donc, nous allons juste regardez un petit peu, et en même temps on peut cliquer, ce que les pharisiens pensent de Jésus. Eh bien, ils pensent qu'il chasse les démons par le prince des démons. Ce que les habitants de Gadara pensent de Jésus. Les habitants de Gadara avaient dans leur région des personnes qui étaient possédées par des démons, et Jésus est venu les chasser. Alors, donc, ils considèrent que Jésus est un chasseur de démons. Qu'est-ce que les habitants de Nazareth, ceux qui ont vécu avec Jésus, pensent de lui? Eh bien, ils le considèrent comme étant le fils du charpentier, ou le charpentier lui-même, s'il a exercé le même métier que son père. Au verset 13 de notre texte, Jésus pose à ses disciples une question peu banale. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Et vous voyez que les réponses au verset 14 ont ce point commun qu'elles concernent toutes un prophète. Dans l'opinion publique, Jésus est un prophète, un porte-parole de Dieu. Les gens reconnaissent donc qu'il a été envoyé par Dieu pour leur parler. Et nous pouvons montrer l'image. Voilà ce que le peuple pense que je suis, un prophète. Mais Jésus est bien plus qu'un prophète. Alors il poursuit au verset 15. « D'après vous, » donc il s'adresse à ses disciples, « d'après vous, qui suis-je ? » Jésus demande à ceux qui ont passé le plus de temps avec lui de répondre à cette question. Et après tout ce temps, ils ont dû se faire une idée sur la question. Qui est Jésus ? Et Simon-Pierre s'empresse de répondre, sans doute au nom de tout le groupe des disciples, au verset 16, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voilà une déclaration qui sort de l'ordinaire si nous considérons tout ce que les gens pensaient de Jésus. Pierre et les autres ne pensent pas comme les gens de leur temps. Jésus n'est pas simplement un grand prophète, il est le Messie, c'est-à-dire la personne la plus attendue de l'histoire d'Israël. Celui que les prophètes ont annoncé des siècles auparavant. Le Messie, ou en grec, le Christ, c'est d'abord celui qui a reçu l'onction, celui qui a été choisi par Dieu pour une mission particulière. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui recevaient l'onction, c'était les prêtres, c'était les rois, c'était les prophètes. Des personnages importants et respectés par les juifs pieux. Le Messie, celui qui reçoit l'onction de Dieu, le Messie qui devait venir était donc une personne d'autant plus importante. Et beaucoup de juifs de l'époque avaient placé dans ce Messie des attentes politiques. Ils voyaient en lui un libérateur descendant du roi David, qui viendrait chasser les Romains qui occupaient le territoire à cette époque et qui viendrait restaurer le royaume davidique. Mais nous savons que ce n'est pas dans ce sens que Jésus a accompli sa mission en tant que Messie. Alors voici un texte, par exemple, d'Ésaïe, le prophète Ésaïe que nous lisons dans l'Ancien Testament, Ésaïe 11, qui a sans doute été mal compris concernant le Messie. Lisons juste cet extrait. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. » Isaïe, c'était le père de David, donc le Messie est un descendant de David. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Et sans doute que dans la pensée des Juifs de l'époque, le méchant, c'est le Romain. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Voilà l'image du Messie. Mais une image qui pouvait être mal comprise. Et pourtant, selon Pierre, le personnage le plus attendu de l'histoire d'Israël se trouve là, devant lui. Il est tellement important pour nous que ça soit vrai. Il est tellement important pour nous que Jésus soit le Messie, qu'il soit celui qui accomplit ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Autrement, la première partie de la Bible n'aurait aucune valeur. Aucune valeur pour nous, si ce n'est attendre encore un Messie qui n'est pas encore venu, comme les Juifs d'aujourd'hui. Mais Jésus est la personne qui devait venir. Il est le roi que son peuple attendait. Et c'est ce que suggère la suite de la déclaration de Simon-Pierre. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ce titre, « Fils de Dieu », a plusieurs sens dans le Nouveau Testament. Et si nous le comprenons comme il apparaît dans l'Ancien Testament, il s'agit d'un titre royal. Puisque le roi d'Israël était le représentant de Dieu sur terre, comme un peu comme son fils. Et donc, dans sa promesse à David, Dieu disait déjà de son successeur, nous lisons cela dans 2 Samuel chapitre 7, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc le roi était fils de Dieu. Autre référence dans le psaume 2, qui parle aussi de l'intronisation du roi, « Tu es mon fils, c'est Dieu qui parle, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Et ici, Dieu s'adresse au roi. Et nous savons que Jésus est ce Fils par excellence qui accomplit parfaitement cette parole. Donc, ce titre, dans la bouche de Pierre, ne renvoie pas tant à la divinité de Jésus qu'à sa royauté. Il est Fils de Dieu dans le sens où il est roi. Et si Pierre est si perspicace, si Pierre a pu faire cette déclaration surprenante et en décalage avec l'opinion de son temps, c'est parce qu'il a reçu cette révélation de Dieu le Père. Verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Autrement dit, tu es heureux, privilégié d'avoir reçu une telle révélation, parce que tu n'aurais pas deviné tout seul que Jésus est le Messie. Et nous avons ici un principe général. Personne ne peut connaître la véritable identité de Jésus sans la révélation de Dieu le Père. Aucun d'entre nous ne parvient ou n'est parvenu à répondre correctement à la question « Qui est Jésus ?» sans l'intervention de Dieu, sans que le Saint-Esprit nous convainque. Et pour savoir que Jésus est le Messie annoncé dans les Écritures, nous dépendons de Dieu. Nous avons besoin que Dieu agisse en nous, dans notre cœur, pour nous convaincre de cela. Jésus est bien le Messie promis par les Écritures. Il n'y a pas de doute sur son identité. Et Dieu nous le révèle encore cet après-midi à travers ce texte. Si Jésus est le Messie, cela implique pour nous, et cela implique aussi pour les Juifs de notre temps, que nous n'avons pas à attendre un autre Messie. Nous n'avons pas à attendre un autre libérateur. Nous n'avons pas à attendre un autre roi. Il est déjà venu. Jésus est la personne choisie par Dieu qui devait venir pour une mission particulière. En fait, une mission unique. Et comme nous l'avons chanté, cette mission, être attaché à la croix pour toi et pour moi. Remercions le Seigneur d'avoir reçu une telle révélation à propos de Jésus. Quelle grâce! Tous n'ont pas reçu cette révélation. Quelle grâce! Et si tu n'es pas convaincu par la déclaration de Pierre, je t'invite cet après-midi à laisser Dieu te convaincre de la véritable identité de Jésus. Et quand nous considérons que les personnes de notre entourage ont besoin de cette révélation divine pour reconnaître qui est Jésus, nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il provoque le déclic. Nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il illumine l'intelligence de nos collègues, de nos amis, des membres de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne reconnaissent pas Jésus pour qui il est. Prions que Dieu leur révèle qui est Jésus et qu'à travers notre témoignage, ils en viennent à être convaincus que Jésus est bien celui qui devait venir. Voilà la première révélation de notre texte. Une première révélation qui porte sur l'identité de Jésus. Et regardons à présent une deuxième révélation concernant le projet de Jésus. Un projet révélé. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Cette fois-ci, c'est Jésus qui fait des révélations. Jésus répond à la déclaration de son disciple. Puisque Simon a dit qui il était, lui Jésus, eh bien Jésus à son tour révèle le rôle qu'il va jouer dans la suite de l'histoire. Selon les commentateurs, Jésus explique à Simon le sens de son autre nom, Pierre. Jésus fait un jeu de mots ici. Littéralement, tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon Église. Le nom de Pierre est donc significatif. Il a le sens qu'on lui donne encore aujourd'hui en français. Une pierre. Le nom de Pierre est significatif parce qu'il évoque la pierre, le fondement qui va servir à la construction de l'Église. C'est ça le projet du Messie. Bâtir une communauté qui sera sa communauté à lui. L'Église est la communauté du Messie. Et quelle belle image pour celui qui exerçait autrefois le métier de charpentier. Je bâtirai ou je construirai mon Église. Les commentateurs considèrent que le mot « ecclesia », faisant un peu de grec, « ecclesia », qui a été traduit ici par « église », est une traduction du mot hébreu qui signifie « assemblée ». En particulier, l'assemblée du peuple d'Israël dans le désert, au temps de Moïse. Et quand Jésus parle de l'Église, il parle donc d'un nouveau peuple. Et en tant que roi, puisque nous avons vu que Messie et Fils de Dieu désigne sa royauté, en tant que roi, Jésus se constitue un nouveau peuple. Il en a le droit, il en a la légitimité. Un nouveau peuple qui marche à sa suite, un nouveau peuple qui accepte son gouvernement, un nouveau peuple qui accepte ses commandements et sa volonté. Et pour cela, Pierre et les autres disciples seront le fondement de cette future communauté. L'apôtre Paul exprime cette idée dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 20. Il s'adresse à l'église d'Éphèse et il leur dit « Vous avez été édifiés sur le fondement » donc on a l'image de la construction « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, c'est vrai que ce verset peut prêter à confusion après ce qu'on a dit concernant la pierre. Parce que ici, Paul désigne Jésus comme étant la pierre angulaire. C'est vrai dans ce contexte. Mais dans le contexte du texte de Matthieu, c'est Pierre, le disciple, que Jésus désigne ainsi. Il est cette pierre sur laquelle il bâtit sa communauté. Alors, je reviendrai dans un instant sur le rôle de Pierre. Disons encore une chose concernant l'Église, que Jésus a le projet de construire. Alors, bien sûr, je dis, il a le projet de construire parce qu'à ce moment-là, au moment où il parle, l'Église n'est pas encore là. Et d'ailleurs, vous voyez que les verbes sont au futur. Je construirai. Ce n'est pas encore fait à ce moment-là. Mais pour nous qui vivons, bien sûr, cette réalité de l'Église, nous voyons que Jésus a effectivement bâti son Église. Nous voyons que, effectivement, il a réalisé cela le jour de la Pentecôte. Nous l'avons vu, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église est née. Et si l'Église a perduré à travers les siècles depuis ce moment-là, c'est parce que Jésus a déclaré que la mort ne pourrait pas mettre un terme à cette construction. Parce que pour éliminer l'Église, il faudrait éliminer son bâtisseur, Jésus. Or, Jésus est déjà mort une fois, et il est revenu à la vie, pour toujours. Victoire sur la mort. C'est plutôt après sa résurrection et après son ascension que Jésus bâtit son Église. Il n'y a donc aucune chance que la mort puisse engloutir la communauté du Christ. L'Église n'est donc pas un projet d'hommes et de femmes qui se rassemblent. L'Église est le projet du Messie qui rassemble les siens. Mais poursuivons encore la lecture au verset 19. « Je te donnerai, dit Jésus à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Jésus précise le rôle de Pierre en tant que représentant des autres disciples. Jésus confiera à Pierre les clés du royaume de Dieu, rien que ça. L'image des clés du royaume symbolise l'autorité particulière que Pierre va recevoir. L'accès au royaume de Dieu sera rendu possible grâce à la prédication de l'Évangile, grâce à l'explication de la mission que Jésus a accomplie en tant que Messie. Et d'ailleurs, nous remarquons dans le livre des Actes que Pierre sera présent à chaque fois qu'une nouvelle catégorie de croyants reçoit le Saint-Esprit. D'abord les Juifs, le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, ensuite les Samaritains, dans Actes 8, et enfin les non-Juifs, avec l'officier romain Corneille, dans Actes 10. À chacun de ces moments, Pierre sera présent, et sa présence même, en particulier pour les Samaritains, sera indispensable pour qu'il se passe quelque chose. Et vous aurez l'occasion d'étudier de plus près ces passages dans les groupes de maison. Pierre recevra donc cette autorité de la part de Jésus. Et si nous lisons la suite du verset 19, qui est peut-être un peu énigmatique, « Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, cette partie du verset 19 est sujette à diverses interprétations, mais je retiendrai personnellement celle qui fait des verbes « lier » et « délier » des synonymes d'interdire et de permettre. Lier et délier sont synonymes d'interdire et de permettre. Et nous retrouvons ces expressions dans l'usage des rabbins. Les rabbins utilisaient les verbes lier et délier dans ce sens-là. Interdire et permettre. Ce que tu interdiras sur la terre aura été interdit au ciel, et ce que tu permettras sur la terre aura été permis au ciel. Autrement dit, cela renvoie à l'enseignement que Pierre donnera. Et comme nous le voyons aussi deux chapitres plus loin, cette autorité n'est pas seulement celle de Pierre, mais elle reviendra à tous les disciples dans le cadre de l'Église locale. Et Jésus réutilise dans le chapitre 18 exactement les mêmes termes. Dans le contexte, Jésus explique ce qu'il faut faire si quelqu'un a péché dans l'Église. Alors il faut dans un premier temps le reprendre en tête à tête, surtout si le tort a été fait à soi personnellement, donc le reprendre en tête à tête. Ensuite, s'il n'écoute pas, venir avec deux ou trois personnes comme témoins. Et puis on en arrive au verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Donc c'est Jésus qui parle. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il soit exclu de la communauté. Et Jésus ajoute, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez, au pluriel, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Cette fois-ci, Jésus s'adresse au groupe des disciples en indiquant bien l'autorité et la responsabilité qu'ils auront dans une affaire, par exemple, comme la discipline dans l'Église. Mais revenons encore à Matthieu 16. Jésus dit donc, à Pierre, pour le dire autrement, l'enseignement que tu donneras sur la terre correspondra à l'enseignement dans le ciel, correspondra à la volonté de Dieu. Pour le dire encore autrement, la parole de Pierre, si vous me permettez l'expression, sera parole d'évangile. Et par extension, la parole des apôtres sera parole d'évangile. L'enseignement des apôtres sera de première importance, et cela jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ces termes que nous venons de lire dans ce passage. C'est dans ces termes que Jésus présente son projet de construction qu'est l'Église. Et pour les premiers lecteurs de Matthieu, cela devait leur permettre de faire le lien entre le judaïsme dont ils étaient issus et le christianisme qu'ils avaient embrassé. Jésus est bien le Messie promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et en même temps, il est celui qui construit l'Église, le nouveau peuple de Dieu, auquel ces lecteurs de Matthieu appartiennent. Matthieu montre aussi à ses contemporains que l'enseignement de Pierre, qui représente les 12 disciples, est solide, enfin sera solide et fiable, parce que Jésus lui a donné une telle autorité. Et aujourd'hui encore, Il est de la responsabilité de chaque église locale de préserver cet enseignement des apôtres. Et Jésus a fait cette magnifique prière à notre sujet que nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 20. Jésus a fait cette magnifique prière en disant « Je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire pour ses disciples, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole, c'est-à-dire à travers la parole des disciples. » L'enseignement des apôtres que nous avons dans le Nouveau Testament et qui s'appuie sur l'Ancien Testament aussi est la parole que nous devons garder. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que prédicateur. Le Seigneur a choisi ce moyen, qui est l'enseignement apostolique, pour que l'Église grandisse en qualité, mais aussi en nombre. C'est sur le fondement des apôtres que l'Église est édifiée. Et c'est pour ça que nous devons continuer à faire nos études bibliques sur le livre des Actes. C'est pour ça que l'Évangile doit continuer à être annoncé dans notre Église, lorsque nous sommes rassemblés et lorsque nous sommes dispersés en semaine. C'est pour ça que nous parlons de Jésus à celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est le projet de Jésus que nous suivons. Nous le suivons lorsque nous vivons ainsi l'Église. C'est un projet étonnant, car Jésus nous confie une telle responsabilité. Et en même temps, nous sommes rassurés, parce que même la mort ne pourra pas mettre fin à son Église. Alors, après avoir abordé les deux révélations de notre texte, concernant l'identité de Jésus et concernant le projet de Jésus, interrogeons-nous juste un moment, et ce sera plus court, sur le secret qui est mentionné dans notre texte. Est-ce un secret à révéler ? Après toutes ces révélations que nous venons de voir, le dernier verset de notre texte est étonnant à la première lecture, verset 20. « Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. » C'est étonnant. Après toutes les révélations qui viennent d'être faites, Jésus demande à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. La révélation que Pierre a reçue et que sans doute les autres disciples ont reçu, doit rester secrète. Jésus ne veut pas que la nouvelle s'ébruite. Et nous pourrions nous demander pourquoi. Ce n'est pas la première fois que Jésus demande de la discrétion. Un peu plus tôt dans l'Évangile, Matthieu raconte la guérison d'un lépreux par Jésus. Et de manière expresse, Jésus lui dit de ne le dire à personne qu'il a été guéri par Jésus. Cette attitude de Jésus est bien souvent rapportée un peu plus dans l'évangile de Marc. Et les spécialistes l'ont appelé le secret messianique. Le fait que Jésus recommande aux gens de ne pas dire qui il est, on a appelé ça le secret messianique. Pourquoi Jésus veut-il garder sa véritable identité secrète ? Eh bien, sûrement à cause des attentes de ses contemporains. J'ai dit un peu plus tôt que les Juifs espéraient en un Messie conquérant qui chasserait les Romains et qui établirait le royaume de David. Or, Jésus ne souhaite pas, il ne souhaite pas que les gens de son peuple puissent l'assimiler à un tel Messie. Une autre raison peut aussi être évoquée, si nous nous appuyons sur la suite du texte. Les disciples eux-mêmes n'étaient pas prêts à annoncer le Messie. Jésus devait encore les former sur son rôle, sur ce que son rôle impliquait en tant que Messie. Jésus devait encore former ses disciples. Ils n'étaient pas encore prêts à annoncer au monde que Jésus est le Messie. Et nous lisons cela au verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait, lui le Messie, qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres, et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Et au moment où Jésus annonce cela, ses futures souffrances, lui le Messie, nous constatons que Pierre à une conception du Messie qui mérite encore d'être corrigée. Jésus le reprend avec vigueur au verset 23. « Arrière, Satan ! Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors on peut montrer l'image suivante, ce que les disciples pensent de Jésus, un Messie triomphant. Mais ils se trompent et Jésus aura besoin encore de les former pour qu'ils puissent comprendre autre chose de la mission du Messie. Jésus est conscient de sa mission plus qu'aucun autre. Et les disciples devaient premièrement le comprendre avant de pouvoir l'annoncer. C'est pourquoi Jésus leur ordonne de ne rien dire, au risque de semer la confusion au sujet de son identité. Et à la place, comme nous le voyons aussi dans notre texte, Jésus utilise plus fréquemment l'expression « fils de l'homme ». Jésus ne dit pas qu'il est le Messie, mais il dit qu'il est le fils de l'homme. Une expression qui est beaucoup moins connotée que le mot « Messie » à cette époque. Il est le fils de l'homme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est doit-on, en lisant le verset 20, doit-on garder le secret ? Puisque Jésus a interdit à ses disciples de ne rien dire, doit-on garder le secret ? Évidemment, le verset 20 ne s'applique pas à nous. Bien au contraire, nous pouvons et nous devons briser le silence et vraiment annoncer Jésus comme le Christ, comme le Messie. Comme l'a fait Pierre le jour de la Pentecôte. Et plusieurs spécialistes ont avancé le fait que, après la mort et après la résurrection de Jésus, le secret messianique pouvait être levé, puisqu'il n'y avait plus d'ambiguïté quant à la mission du Messie. Il n'y avait plus le risque de confusion avec l'idée que Jésus était venu pour conquérir, pour chasser les Romains. Après sa mort et sa résurrection, sa mission était bien plus claire. Il était venu pour une autre conquête, une conquête spirituelle, pour le salut des êtres humains, des pécheurs. Et toi, quelle est ta conception du Messie ? Quelle est ta vision de Jésus aujourd'hui ? Comment parles-tu de Jésus à ton entourage ? Comme un libérateur ? Comme un Messie qui a dû souffrir pour toi ? As-tu la conception que Jésus est juste là pour t'aider dans tes détresses ? Mes amis, Jésus est bien plus qu'un sauveteur dans nos détresses. Même s'il l'est, bien sûr, il est là dans nos détresses. Mais il est plus que ça. Jésus est celui qui nous a sauvés de la colère de Dieu. Il est celui qui nous a sauvés de la séparation éternelle avec Dieu. Il est mort à cause de tes fautes et à cause de mes fautes. Quand Pierre confesse que Jésus est le Messie, il n'en mesure pas encore toutes les implications. Mais nous le pouvons, parce que nous avons le reste de la révélation. Nous le pouvons et nous le devons. Plus nous comprendrons la mission du Messie, plus nous saurons en parler à celles et ceux qui nous entourent. Es-tu au clair avec la mission du Messie ? Je suis certain que beaucoup de nos contemporains ne savent pas ce que signifie Christ dans l'expression Jésus-Christ. Ils ne savent pas ce que ça veut dire Christ. Ça pourrait être la première question à leur poser. Mais nous, nous devons nous souvenir que Christ signifie « Messie ». D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai participé une fois à un culte avec des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui sont devenus chrétiens, et ils terminent leur prière « Au nom de Jésus, le Messie ». Ils ne disent pas « Au nom de Jésus-Christ », ils disent « Au nom de Jésus, le Messie ». Et je trouve que c'est un bon rappel pour nous. Peut-être que parfois nous avons tendance à oublier que Jésus-Christ signifie Jésus, le Messie. Est-ce que nous avons oublié cela lorsque nous parlons de Christ ? Nous ne sommes plus tenus au secret messianique. Ce Jésus que nous reconnaissons comme roi et libérateur nous envoie cette semaine encore pour amener notre entourage non chrétien à se poser la question de l'identité de Jésus. Et si Dieu leur révèle la réponse, ils seront heureux, comme Pierre. Ils seront heureux, car eux aussi auront trouvé leur Messie. Et on peut afficher la dernière image, ce que Jésus est vraiment. Alors c'est juste une image, mais voyez tout le décalage avec ce que pensent les gens. C'est dans cette région de Césarée de Philippe que Jésus est reconnu par ses disciples, par Pierre en particulier, comme le Messie, le roi qui devait venir, le Fils du Dieu vivant. Jésus est bien le Messie promis, comme nous l'avons vu, et l'Église est son projet et sa communauté. Et pour que ce projet se réalise, il faut que le Messie réussisse sa mission. Pour que le projet de l'Église puisse avoir lieu, il faut que le Messie réussisse sa mission, c'est-à-dire souffrir, mourir et ressusciter. Donc, à présent, vous voyez le lien entre les deux. Jésus est le Messie, l'Église est son projet, mais entre les deux, il doit accomplir sa mission. Et nous avons vu que l'identité de Jésus nécessite une révélation de la part de Dieu. Reconnaître Jésus comme le Messie ne peut pas venir de nous-mêmes. Ensuite, nous avons vu que l'Église est le projet que Jésus révèle à ses disciples. Et leur rôle aux disciples est essentiel. Et notre responsabilité en tant qu'Église est de préserver, de transmettre l'enseignement des apôtres. Et c'est de cette manière que nous nous comporterons en communauté fidèle, fidèle à son Messie. Et puis enfin, nous avons vu que le secret messianique n'a plus lieu d'être. Mais nous rappelle, quand même, que nous devons être au clair quant à la mission et à la personne du Messie. Que nous devons être au clair avec ça avant de pouvoir l'annoncer. Et j'aimerais simplement terminer par une citation que j'ai lue cette semaine. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous. Nous sommes venus dans le monde pour Jésus. À la première lecture, nous pourrions ne pas être d'accord avec la première partie de cette citation. Mais si nous creusons un peu plus, nous découvrons que si Jésus est venu, c'est pour que les hommes le reconnaissent. Que si Jésus est venu, c'est pour que les hommes lui donnent la gloire qui lui revient. Lui, le Messie promis. Lui, le bâtisseur de l'Église. Lui, le Fils de Dieu, non seulement au sens royal, mais aussi au sens divin. Jésus est venu pour servir. Jésus est venu pour nous sauver, afin que nous le servions, afin que nous soyons son Église. Amen. Je vous invite à prendre un temps pour répondre à la parole de Dieu. S'il y a une chose peut-être qui vous a interpellé, que vous puissiez prier en fonction de cela. Et encore une fois, de se poser la question, qui est Jésus pour toi ? Notre Père Céleste, c'est un passage tellement riche que nous venons de lire. Et tout ce qui est révélé dans ce passage de l'Évangile de Matthieu, d'une manière ou d'une autre, doit nous interpeller. Mais merci Père, parce que tu nous as révélé, à nous qui avons reconnu Jésus comme le Messie, tu nous as révélé que Jésus et le Messie, le Christ, celui qui avait été annoncé dans les temps anciens, qui devait venir et qui est effectivement venu. Nous voulons te remercier, notre Père, parce que grâce à ta révélation, oui, nous avons pu comprendre quelle était la mission que le Messie devait conduire sur cette terre. Que en venant sur cette terre, ce n'était pas simplement pour vivre une vie tranquille, mais c'était pour souffrir, pour mourir à notre place, pour nos péchés, et pour ressusciter. Merci parce que Jésus a parfaitement accompli cette mission. Et grâce à la réussite de cette mission, l'Église a pu être bâtie. Jésus a pu bâtir son Église. Et nous en sommes la preuve, Seigneur. Et nous voulons tellement te remercier, parce qu'aujourd'hui même, nous sommes dans ce lieu et nous pouvons l'attester que Jésus a effectivement bâti son Église. Nous sommes la communauté du Messie. Et nous avons encore tellement de choses à savoir au sujet de Jésus. Révèle-nous encore, à travers les semaines à venir, qui est le Fils que tu as envoyé. Qui est celui qui a tout accompli pour nous. Oui, nous voulons ardemment encore découvrir qui il est. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.